I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Est-ce que vous aimez le sexe?
Oui.
Est-ce que vous aimez les podcasts?
Oui.
Est-ce que vous aimez le théâtre? Mais en vrai, bon, c'est quand même plus sympa d'être sur son canapé, regarder des séries.
Oui.
Ah. Bienvenue à cette émission spéciale du podcast Crac Crac. Ce soir, on va faire tout simplement mouiller les planches.
Oui.
Nous avons créé ce qu'on appelle un club du cul 2.0. Et on a invité celles et ceux qui parlent de sexualité de façon joyeuse et innovante à venir en parler sur scène et à quel point c'est important d'en parler sur Internet, sur tous les réseaux, que ça soit Instagram, YouTube ou encore en podcast. Alors souvent les gens se disent « Oui, les podcasts, c'est un peu comme le théâtre, c'est long et un peu chiant. » Bon, je vous le promets, ce soir ce sera pas le cas, je le jure sur la vie de William Shakespeare. Voilà, donc là, pour les gens qui entendent et qui ne peuvent pas voir et qui sont sur leur podcast, en fait, je suis en train de mimer un comédien qui fait des entrechats de théâtre. Alors, il faut savoir que visuellement, les gens ne rient pas. Donc, en fait, en audio, vous n'êtes pas obligé de rire non plus. Et c'est là où c'est intéressant, hein, c'est que finalement, c'est un bide à la fois sonore et visuel. Et c'est bien de l'avoir fait en podcast sur scène. C'est intéressant finalement de se rendre compte que c'est le bide qui réunit tous les publics. Voilà. Alors, que vous écoutiez ce podcast sur votre appli ou que vous y assistiez en direct sur scène ce soir, sachez, mesdames et messieurs, que ce soir nous sommes au Théâtre de l'Œuvre. Mais à la fin de cette émission, promis, ce sera le Théâtre de l'Œuvrette. Waouh. Waouh. Mais alors attention. Attention parce que pour m'accompagner dans cette bonne grosse tirade, si jamais j'ai un trou, elle en a un deuxième. Veuillez applaudir ma co-animatrice Camille Emmanuel.
Bonsoir à toutes et tous. Alors tu sais Poulpe, en fait c'est un podcast, c'est pas un stand-up, hein, tu vas devoir rester pas mal assis à côté de moi.
Okay.
Mais ça va bien se passer, car on a plein d'invités de ouf pour ce 10e épisode de Crac Crac, que tu as appelé le club du cul. Bon, ben pourquoi pas, c'est toi l'humoriste. Moi je suis plutôt journaliste, j'ai écrit des livres, par exemple Sex Powerment, tu l'as lu hein?
C'est une BD, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, je l'ai lu. Ouais.
Donc ce soir dans Crac Crac, on n'a pas un, ni deux, ni trois, mais six invités. Leur point commun, ils et elles font bouger les frontières sur les questions de corps et de sexualité. Ils brisent les tabous, ils ouvrent la parole sur le sexe. Bref, avec ces nouveaux médias, ils font une nouvelle révolution sexuelle. Un peu comme nous, en fait, hein, avec Crac Crac.
Ouais, carrément, Camille.
Et en fait, en préparant l'émission, il m'est arrivé un truc bizarre. Je me suis mise à détester les jeunes. Parce que moi, quand j'avais 18 ans, contrairement à eux et à vous, les quelques jeunes qui êtes dans la salle, j'avais quoi comme info drôle, juste et cool en fait sur le cul? Bah j'avais rien. À l'époque, j'avais pas internet et mes vibros marchaient au fioul. Et donc les pages sexo de Biba me donnaient des conseils pour satisfaire mon Jules, le samedi soir. Et dans elles, on m'expliquait que la pipe, c'était le ciment du couple. Et un coup de parpaing dans la gueule, c'est le nouveau tantrisme peut-être? Du coup, ben, pour me repérer dans ma vie sexuelle, c'était un peu « démerde-toi, ma fille ». Alors que si j'avais connu Queen Camille sur YouTube, je n'aurais pas autant flippé de ma première fois, genre le truc, c'est Koh-Lanta, il va y avoir 12 000 épreuves. Si j'avais regardé les vidéos « Entre mecs » de Benjamin Nevers, je me serais dit « Tiens, il existe des mecs qui parlent entre eux de cul sans faire de concours de bites ». Si j'avais lu les posts Instagram de Camille au Montcarnel, de « Je m'emballe clito », j'aurais osé parler de branlette joyeuse en fait avec mes copines. Si j'avais découvert Jouissance Club de Junpla, j'aurais pu dire à mes partenaires que non, 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 le mouvement de piston là, avec les doigts pour me doigter, ça ne fait pas du tout, du tout, du tout. Si j'avais connu Sophie Marinaru il y a 18 ans, j'aurais compris beaucoup plus tôt que l'assurance, l'humour et la liberté de parole étaient des putains d'armes de séduction. Et enfin, si j'avais écouté La Poudre, le podcast de Lorraine Bastide, j'aurais pu trouver 12 000 réparties quand on me disait « Ah bon, t'es féministe, tu t'épiles pas et t'aimes pas les hommes ?» Eh bien, toutes ces personnes-là, elles seront avec nous ce soir et il y aura des invités surprises. On va passer à l'acte, et pas n'importe lequel, l'acte 1.
Merci Camille. On va commencer en accueillant, bah oui, mais oui, évidemment. Évidemment. Merci Camille, on va commencer. Ça va ?
Oui.
Super. On va commencer en accueillant deux personnes qui parlent de sexe sur YouTube. Merci de faire une douche dorée d'applaudissements pour Queen Camille et Benjamin Nevers.
Bonsoir.
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 Bienvenue. Camille, merci d'être avec nous dans tes vidéos pour le magazine Mademoiselle. On te connaît sous le nom de Queen Camille. Alors, t'as testé des sextoys, t'as répondu à des questions genre comment faire l'amour la première fois, ou encore dois-je m'épiler intégralement la chatte ? Tu imaginais en fait en troisième, quand t'étais face genre à une conseillère d'orientation, que ça existerait comme métier youtubeuse cul ?
Non, c'était pas mon plan de carrière. je t'avoue que moi je suis journaliste, donc à l'origine, journaliste spécialisée dans l'économie. Donc on est un petit peu loin. Un petit peu loin du cul, mais j'étais ravie de prendre ce poste chez Mademoiselle et de devenir un peu la reine de la sexo chez eux. C'était vraiment plaisant parce que je me suis sentie utile. En fait, je mesurais pas en arrivant. Je pensais qu'on allait parler de cul en rigolant, tu vois, et que ça allait être fun. Mais après, j'ai mesuré en recevant les questions des ados qu'il y avait vraiment un besoin d'éducation sexuelle énorme et que quand l'éducation sexuelle n'est pas là, eh ben, le sexe est beaucoup moins fun. Donc c'était très chouette de pouvoir aider les autres.
Mon moi de 15 ans te dit merci, Camille.
Mais je lui dis de rien.
Le fait d'être une meuf qui parle de sexe sur les réseaux, qu'est-ce que ça génère comme réaction auprès des gens ?
Ah, tout le monde veut me baiser.
Quelle chance !
Ben justement, ils sont là ce soir.
Je pense que je m'attendais à plus de violence, parce que bah, quand on est une meuf qui parle de sexe, on est vite étiquetée salope, en tout cas. Enfin, même dans la vie, hein, quand on est une fille qui a une parole un peu libérée, on est vite étiquetée salope, qui n'est une étiquette pas très flatteuse, voilà.
Ouais, c'est du slut-shaming, c'est ce qu'on appelle le slut-shaming.
Exactement. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir une communauté plutôt bienveillante, qui me rappelle régulièrement à quel point ça les aide et à quel point ça fait plaisir de voir justement une femme s'emparer de ces sujets sans en être gênée et voilà, sans que ce soit tabou.
Donc ton public est plutôt jeune en fait. Et comment tu fais pour être ni trop cucu, ni trop trash, ni trop donneuse de leçons ? Enfin, c'est quoi le comment tu fais pour trouver le ton juste pour ce public ?
C'est tout un art. Mais j'utilise beaucoup l'humour dans les vidéos parce que je pense que bah déjà que c'est pas un sujet dramatique en soi, que c'est quand même la seule activité gratuite, plaisante et pas mauvaise pour la santé qui est à notre disposition. Donc c'est quand même censé être fun, le sexe, à la base. Donc, c'est bien d'en parler avec humour et ça permet de faire passer des messages plus sérieux aussi autour, par exemple, du consentement ou voilà, du slut-shaming. Donc, ouais, j'essaie de mettre la juste dose de vulgarité parce que bah, c'est comme ça qu'on parle dans la vie aussi.
C'est important aussi.
Puis nous, on aime bien dire bitch à de cul, quoi. Parce que
nous aussi.
C'est rigolo, quoi. C'est tout. On va pas s'excuser. Et à la fois de donner des infos sérieuses et fiables.
T'en parlais tout à l'heure, le fait de répondre aux internautes. Il y a ces fameuses FAQ qu'on retrouve sur YouTube où tous les YouTubeurs font des FAQ. Donc là, il y a vraiment le cul qui est important dans le mot FAQ sur ta chaîne YouTube. C'est quoi les questions les plus dingues qu'on t'ait posées ? On scanne la base de données des trucs dégueux.
Mais j'ai pas eu tellement de questions dégueux. Chez les ados, en tout cas, c'est beaucoup... c'est des choses assez basiques, en fait. Et la question qui sous-tend toutes les questions que je reçois, c'est est-ce que je suis normale, en fin de compte ? Et c'est jamais des trucs vraiment de fou, mais c'est est-ce que c'est normal que ma petite lèvre, elle soit un peu plus... Ma petite lèvre gauche soit un peu plus grande que ma petite lèvre droite ? Est-ce que, voilà, c'est, mon travail, c'est beaucoup de rassurer, en fait, les gens par rapport au fait que, oui, tout est normal, et de leur répéter inlassablement que tu as le choix. Parce que ce qui nous bloque souvent dans la sexualité, surtout quand on n'a pas d'infos accessibles, c'est qu'on pense qu'il y a un chemin à suivre et que si on en déroge ou si nos goûts correspondent pas à ce chemin, on va être bizarre.
Mais est-ce que des fois, quand on te demande des conseils, toi, tu dois demander des conseils à d'autres gens pour y répondre ou...
Oui, ouais. Quand ça a trait au médical notamment, j'avais un podcast qui s'appelait Coucou le cul, dans lequel on répondait parfois à des questions plutôt plus médicales ou plus gynécologiques. Et là, j'avais Laura Berlingot, une super gynéco, qui m'aidait pour donner des infos précises là-dessus.
Mais
Laura,
parce que tu veux Berlingot. Pas tout savoir.
Oui, la bien nommée.
Mais c'est impossible de tout savoir voilà, sur la question de sexualité, de rapport. Enfin voilà, c'est.
Oui,
tu vas chercher. Les ressources.
Je suis pas experte non plus, mais c'est vrai que mon travail, en fait, ça consistait souvent à rappeler des notions de base que tous les adultes un peu au courant devraient avoir, quoi. Quand c'est non, je peux faire ce dont j'ai envie dans les limites de la légalité et du consentement.
C'est voilà, plus de c'est... la rééducation sexuelle que.
Exactement, ouais. C'est bien dit.
Je l'ai déposé en brevet.
Ouais. Ah, dommage.
Alors, on est dans le club du cul, enfin, voilà, c'est. C'est ce que dit Paul.
Non, c'est un club du cul, oui.
Et donc, les gens se connaissent un peu. Queen Camille, tu as fait un article dans Mademoiselle à propos des vidéos YouTube entre mecs de Benjamin Nevers. Bah, oui. Ça tombe bien, il est là.
Ouais, je suis même venu sur sa chaîne.
Oui, il est venu dans la boîte à cul.
Ouais. Ça, c'est un petit monde, en fait. Oui. Et donc, Benjamin, entre mecs, c'est une discussion filmée entre tes potes et toi. Vous abordez des thèmes comme la rupture amoureuse, l'alcool, la drague, mais aussi la bite.
Le porno aussi.
Voilà. Pourquoi tu as eu envie de parler de tout ça avec tes amis ?
Moi, j'avais surtout pas envie de le faire, surtout au départ. Vraiment, je m'étais dit, surtout, c'est la fin de ma carrière si je fais ça, vraiment.
C'est vrai, pourquoi ?
Ouais, je me suis dit, c'est tellement touchy de parler de masculinité. Je me suis dit, en fait, pourquoi je vais me mettre dans cette galère alors que ça va, ça commence à marcher un peu, etc. On va peut-être pas, voilà, se tirer une balle dans le pied. Et c'est en discutant avec beaucoup de meufs autour de moi qui m'ont dit, en fait, il serait peut-être temps que les mecs aussi prennent leurs responsabilités. Et pourquoi il y a autant de meufs qui créent, justement, des prises de parole, podcasts, vidéos, etc. sur la masculinité. Et que, en fait, les mecs, pour l'instant, ne disent rien. Et donc, je me suis dit, ok, c'est parti, on va le faire. Au départ, c'était des vidéos face cam. J'avais écrit ça et heureusement, j'avais tourné une vidéo et je m'étais dit, non, celle-là, si je fais ça, c'est mort. C'est vraiment le pire truc. Et après, j'ai rencontré Omar et Toto, qui sont mes deux acolytes, les deux chroniqueurs à chaque fois autour de la table.
Récurrent, ouais.
Ouais. Et en fait, c'est autour d'un verre dans un bar où enfin on parlait de choses. Et je me suis dit, mais en fait, juste qu'on se raconte là, c'est trop bien. On remplace pas des dogmes par des autres dogmes, parce que l'idée c'est pas de dire, regardez, un mec c'est pas ça, mais plutôt un mec c'est ça. Et du coup, on remplace le truc. C'était juste de se dire, voilà notre réalité de vie. On montre d'autres mecs. Moi, je voyais beaucoup de contenu très viriliste aussi sur YouTube et je m'étais dit est-ce qu'on peut aussi montrer d'autres choses qui existent et qu'on voit pas forcément médiatiquement donc on a commencé comme ça sur un fond vert dégueulasse ceux qui ont vu
il y a une vraie évolution hein, de vidéo en vidéo on sent que ça marche.
Ouais, là on a un nouveau décor parce qu'on gagne un max d'oseille grâce aux gens qui regardent évidemment. C'est très cool, là ça marche bien et on a sorti le 10e épisode avant-hier qui est une FAQ. Mais j'ai pas fait le jeu de mots. C'est dommage, j'aurais dû penser au jeu de mots.
Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a été compliqué à aborder avec tes potes ?
La toute première fois, alors les deux qui sont avec moi s'appellent Omar et Toto. Toto, c'est mon tatoueur qui connaît pas du tout les caméras, etc. Et Omar qui est comédien, mais plutôt cinéma, on le voit un peu sur le web. Les deux sont pas du tout habitués à parler devant des caméras. Ils ne se connaissaient pas tous les deux. Ils s'étaient aperçus une fois dans le fameux bar où je me suis dit, ça peut être cool. Et le premier épisode qu'on a fait, c'est sur la bite.
Je me suis dit,
il faut vraiment soit on le joue jusqu'au bout, soit on le joue pas. Et donc le premier papier, ils ont tiré, ils ont vu la bite, ils ont fait ok, maintenant on va parler. Et en fait, du coup, tout était facile après. Hein. Une fois qu'on a fait la bite, je pense que n'importe quel sujet était hyper simple. Mais je pense que c'était la bite le plus compliqué. À la limite, même le porno, je me suis dit, ah, ça va être compliqué, sachant que Omar n'était même pas au courant parce qu'il ne regarde pas tous les messages qu'on s'envoie.
Tous donc, les films porno, surtout.
Donc, il ne connaissait pas tous les titres, il avait dû réviser, etc. Bon, un bordel. Et du coup, ouais, je pensais que ça allait être le plus compliqué, mais comme à chaque fois, on a un invité, un guest qui est toujours plus ou moins lié au sujet, qui a des choses intéressantes à raconter, on mise toujours, toujours là-dessus. Donc, en vrai, le plus dur, c'est la prochaine vidéo. Qui est sur la peur.
Teasing.
Avec Angelo Follet qui est du compte Balance ta peur sur Instagram et c'est la première fois qu'on a vraiment chialé donc voilà donc là c'était ouais, là c'était le plus compliqué.
Le mec tease à mort.
On essaie
On entend souvent quand même, enfin moi j'entends ça depuis des années, que les meufs entre elles parleraient de cul de façon libre, je suis pas tout à fait sûre mais bon voilà, et que les mecs pas du tout, alors c'est ou dans l'avantardise enfin ça reste c'est pas forcément sincère. Est-ce que tu crois que justement avec YouTube ou Insta, il y a une nouvelle parole sur la masculinité, la virilité, la sexualité masculine ?
Bah, je pense. Après sur YouTube, je suis pas très bon là-dessus parce qu'en vrai je regarde pas énormément non plus. C'est-à-dire que vraiment moi j'ai fait ce truc-là sans me demander si déjà ça existait déjà. Bon, j'ai checké vite fait quand même, sans me demander là s'il y avait d'autres choses qui étaient sorties, si ça avait insufflé un nouveau souffle. En tout cas moi ce que je vois, je me suis beaucoup posé la question après les quatre premiers de me dire est-ce qu'on enfonce des portes ouvertes ou est-ce que quatre mecs qui parlent de masculinité ça sert vraiment à quelque chose ? Parce que clairement si ça sert à rien, nous on le fait pas. Enfin on se fait plaisir, mais c'est clairement l'idée, c'est que ça serve à des gens. Et en fait les retours ont été fous, vraiment c'est là que je me suis dit ah ok, c'est pour ça que je suis sur YouTube aussi.
Non mais c'est rare hein, c'est vrai, il y a vraiment tous les commentaires sous tes vidéos sur YouTube, c'est vraiment tout le monde est trop content que ça existe quoi.
Ouais, ouais.
Et bien, tout le monde est amoureux et amoureuse de Toto.
Ah ça, bah surtout que dans l'épisode 3 succès. Il fait son coming out, donc ouais. Ça a été très compliqué, il a eu beaucoup de meufs qui ont arrêté de le suivre sur Instagram mais il a regagné beaucoup de mecs en abonnés, donc finalement ça s'est rééquilibré de manière... mais non en vrai c'est très cool, rien que l'épisode sur la virilité c'était avec Alex Ramirez et du coup Toto et Alex parlent justement de leur coming out, de comment ils ont vécu au lycée, au collège leur homosexualité et en fait juste cet épisode là j'ai reçu énormément de messages de mecs justement ados qui ont fait leur coming out et qui osaient pas le faire et qui ont dit bon bah nous ça s'est bien passé etc. Donc juste ces petits trucs là après l'épisode sur la bite, il y en a qui sont allés voir un médecin qui s'il y avait des problèmes à la bite, voilà ça va d'un coming out à un petit problème à la bite mais du coup c'est cool parce que je vois que ça peut avoir de l'impact et c'est pour ça qu'on le fait quoi.
J'allais te demander parce que du coup t'es en première ligne pour le coup toi des mecs, le rapport entre la sexualité et les mecs sur internet et surtout les jeunes mecs, alors autant j'ai l'impression que c'est peut-être plus féminin chez toi Camille dans l'absolu.
Non, il y a des mecs aussi qui s'étonnent eux-mêmes de me suivre mais je leur réponds qu'a priori les hommes font l'amour avec des femmes donc tout le monde peut regarder ma chaîne.
Mais du coup toi Benjamin, t'as plus de mecs que de meufs?
J'ai autant de mecs que de meufs, on est sur un 50-50
ok,
mais par contre j'ai 70% de commentaires de meufs sous les vidéos.
Ah
c'est
bon
pour ça qu'il y a beaucoup de gens, là, on l'a dit dans la FAQ justement qui est sortie, c'est que à chaque fois dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent ah, mais c'est dommage que les mecs regardent pas entre mecs, etc. Et en fait, c'est pas qu'ils ne regardent pas, c'est qu'ils ne commentent pas.
Ils regardent.
Et par contre, je reçois plus de messages privés de mecs sur Instagram qui me disent on a regardé, c'était trop bien, etc. Donc il y a encore un petit boulot à faire là-dessus, quoi. Mais en tout cas, ça les intéresse, ils regardent. Il y a un très bon watch time, voilà, je voulais rentrer en étape technique. mais non, c'est, mais voilà, mais là, je l'ai dit dans la FAQ et d'un coup, là, on a beaucoup plus de commentaires de mecs qui disent, ah oui, désolé, je commentais pas, mais là, je vais commencer à commenter et tout, mais c'est très timide.
En fait, c'est cool parce que toi, du coup, t'as des dick pics, mais médicales. En fait.
Ouais, j'ai des, et puis on en a parlé là, je reçois des pussy pics aussi.
Ah,
des
pussy
pics, des, ouais, c'est très violent en fait aussi pour moi, c'est finalement, il n'y a pas de.
Merci Camille et Benjamin. Une dernière question pour vous deux. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé aborder mais que vous n'avez pas pu à cause des règles de YouTube qui ont empêché de traiter certains sujets ?
Alors moi, YouTube, de fait, démonétise toutes mes vidéos qui parlent de sexualité. Donc,
peut-être tu peux expliquer ce que c'est.
Oui, alors sur YouTube, on peut gagner de l'argent parce que des annonceurs mettent des publicités avant, pendant, après les vidéos qui sont au prorata du nombre de vues, quoi, en simplifiant. Mais ces annonceurs ne veulent pas être associés à des contenus qui seraient porno ou en fait qui parlent tout simplement de sexualité. Ça va à l'encontre des règles de YouTube, visiblement, même quand c'est uniquement moi qui parle devant une caméra, je peux même être interdite au moins de 18 ans.
T'es fiché S du cul.
Ouais. C'est très grave ce que je fais en même temps. Ouais.
Faut que tu te mettes aux vidéos sur le maquillage et trucs.
Mais c'est ça, ouais, je vais revenir à un mode bon vieux tuto beauté finalement.
Est-ce qu'il y a un sujet qui t'as pas pu aborder, ça t'a frustré?
Non, vraiment, je me suis laissé la liberté de répondre à toutes les questions qui me paraissaient intéressantes et qui pouvaient parler au plus grand nombre. J'essaie de pas aller sur des choses trop spécifiques. Il y a des gens qui m'ont écrit parce qu'ils étaient fétichistes des parapluies dans l'anus. Bon, je pense que ça ne concerne qu'une minorité.
Ouais. Est-ce que ça a un nom ? Ça a un nom parce que chaque fétichiste.
Si ça a un nom, je ne le connais pas.
Il y a un nom pour tout. Hein.
Mais il y a un nom pour tout.
Parapluie.
Mais du coup, ils doivent tenir compte des saisons ou pas ? Parce que est-ce qu'ils sont malheureux en été ? Tu vois, en région PACA, par exemple, en région PACA, ils sont dégoûtés. Ils déménagent dans le Nord.
Faut déménager, ouais.
En Bretagne, je pense.
Moi, c'est ce que je leur conseille, en tout cas.
Et Benjamin, toi, t'as senti un truc sur lequel tu pouvais pas aller sur YouTube ?
Alors non, parce que YouTube m'a déjà dit que je pouvais aller nulle part. Parce que le premier épisode qui avait que Marc et sur la drague s'est fait démonétiser directement. Ouais. Donc déjà, on m'a dit juste, tu peux même pas parler de drague. Donc je compte pas trop sur l'argent de base. Là-dessus, donc non, en vrai, les seuls trucs, c'est je demande toujours aux gars avec qui je suis dans la vidéo, est-ce que vous êtes prêts à parler de ça ou pas ? Donc je pense qu'il y a des sujets où on n'est peut-être pas prêts, parce qu'il faut qu'on réfléchisse, parce qu'il faut qu'on ait... après, on ne fait jamais de théorie, donc c'est juste du parcours perso, etc. Mais on a aussi des fois des choses à régler avec nous-mêmes et on n'est clairement pas parfait autour de la table. Mais non, après, il n'y a pas de censure... De toute façon, c'est ça, YouTube. Moi, je sais que on a tous un code sur YouTube et on peut avoir un code genre négatif qui est une note en fait. Et moi, je sais que j'ai une note de merde, c'est-à-dire que dès que je mets une vidéo, YouTube ne se pose même pas la question de ce qu'il y a dedans et dit non, mais ça, c'est démonétisé, ça n'intéresse personne. Mmh. Et voilà. Donc, du coup, bah, foutu pour foutu, on se censure pas quoi.
Ouais, du coup, ne fais jamais chauffeur Uber hein, parce que.
Oui.
Camille, c'est le moment du répondeur.
Ouais. Donc, c'est une tradition en fait, on a un répondeur où il y a des potes qui laissent des messages, des anecdotes de cul. Donc là, je voulais joindre un de nos potes mais par téléphone, mais il était sur répondeur. Donc je lui ai demandé de venir faire son message en live. Merci d'applaudir chaleureusement quelqu'un qui a joué son spectacle ici plusieurs mois, mesdames et messieurs, Manu Payet.
Bonsoir. Ben voilà, je te laisse ce message, Poulpe. Attends, parce qu'en fait, il m'a fait un truc, Poulpe, c'est qu'il m'a fait venir un dimanche soir pour raconter une histoire. Et quand je suis venu le dimanche soir, donc c'est là maintenant le présent, il m'a annoncé qu'elle devait durer 2 minutes 30. Donc j'ai lancé un timer. Alors que c'est une histoire que je travaille depuis toute ma vie, puisque c'est le jour où j'ai reconnecté avec mon père, le jour où j'ai pu finalement passer pour un vrai gars aux yeux de mon père, qui m'a toujours considéré comme un petit gars. Et ben c'est autour du cul, en fait, parce que c'était une fille dont je ne vais pas citer le prénom, mais le vrai prénom, on va l'appeler Eva, qui, alors que j'étais en train un peu de tourner autour d'elle, je ne peux pas dire où exactement, mais en tout cas pas chez moi, et parce qu'elle était la plus belle fille de l'endroit dans lequel je faisais mes études, a fini par me dire oui, et par me dire, bah viens, si tu veux, on y va maintenant. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est une blague, c'est vrai, t'es sérieuse ? Elle me dit, ouais, c'est vrai, je suis sérieuse, écoute, je te l'ai caché, et puis en fait, je te le dis, ben voilà, j'ai envie qu'il se passe un truc entre nous. Je dis, ok, c'est pas possible, c'est fou, parce qu'elle était vraiment très très belle. Je souhaite qu'elle le soit toujours, mais je la vois plus. Et donc, je lui ai dit, écoute, j'ai la voiture de ma mère, tout ça est vrai. Et en disant de ma mère, j'ai dit, putain, mais quel con, j'aurais dû dire, j'ai ma bagnole, elle saura jamais. C'est la voiture de ma mère. Mais j'étais pas habitué à baiser. Donc tout ça a été très nouveau pour moi. Et je lui dis, si tu veux, je t'emmène et puis on va se trouver un endroit cool et tout. Et tu sais, à l'époque, tu vois, enfin, c'est aujourd'hui qu'on peut éventuellement, peut-être pour certains, baiser dans les hôtels. À l'époque, fallait que quelqu'un, l'un ou l'autre, ait pas ses parents chez soi, quoi, chez lui ou chez elle. Donc c'était pas chez elle parce qu'il y avait sa mère. Et donc je me suis dit, mon père, il termine le boulot vers 17h. Il sera à la maison vers 17h30 à peu près. Quelle heure il est ? Ouais, ok, je pense qu'on a le temps de le faire. Je vous donne pas l'heure parce que ça fait partie un peu de l'histoire. Et elle m'a dit, bah non, parce qu'après, pour que je puisse rentrer chez moi, il faut que je vienne en scooter. Donc en fait, je l'ai suivie. Elle avait une petite jupe noire à fleurs qui faisait beaucoup comme ça dans le vent. Pas un truc trop raide, un truc un peu... Voilà. Et quand en fait, elle était en scooter derrière moi, je l'ai regardée dans le rétroviseur, j'ai failli faire beaucoup d'accidents parce que sa jupe faisait beaucoup ça. Nous étions sur l'île de la Réunion où je suis né, où j'ai grandi, donc il faisait plutôt beau. Et les gens aussi, surtout les filles, sont plutôt belles. Et donc on est arrivé chez mes parents, donc ils n'étaient pas là comme prévu. Je me suis dit ok, ça commence. Mais je me disais c'est pas possible, quelque chose va se passer pour que merde, ça y est, c'est... écoutez. Bah et je reviens au prochain truc.
Bah fini. Non mais on est là dans l'histoire, Manu.
Donc on est
Manu,
monté
dans ma chambre.
On est monté dans ma chambre, ce qui était ma chambre et qui était aussi parfois le bureau de mon père, parce que c'était une grande pièce à l'étage que mes parents avaient bien voulu me laisser. Et il y avait l'ordinateur de mon père, et je me souviens, je pensais tellement pas que j'allais baiser que j'étais en train de lui montrer l'ordinateur de mon père, et elle était debout, j'étais assis, je lui dis voilà, et là si t'appuies sur entrée, et ben ça passe à la ligne. Et elle était debout. Elle avait donc cette jupe noire qui était voilà au niveau de, à peu près de mes yeux, parce qu'elle était sur des talons aussi, des trucs un peu compensés mais en genre en osier, vous voyez ce que je veux dire, des chaussures. Et je me suis dit c'est pas possible, et ça m'aurait suffi en fait. Elle me dit bon allez éteins ça. J'ai dit ok, waouh. J'ai dit bah on part dans un délire de domination ou je sais pas quoi. Et je lui dis me parle pas comme ça, on dirait que je suis avec ma mère, je te rappelle qu'on est chez moi. Et j'éteins l'ordinateur, je me lève et tout, et puis elle m'embrasse, et puis elle m'embrasse très très fort. Et enfin ça devient tout de suite très vite très fort, un truc, tu te dis ah ouais, en fait on est en train vraiment d'y arriver et tout, c'est un peu comme dans les films. Et donc elle m'embrasse et tout, hein, et puis on me traîne sur le lit qui était mon lit, et elle avait donc on relève un peu cette sublime jupe qu'elle avait, et dessous elle avait un truc encore plus sublime mais d'époque, parce que c'était un peu échancré, comme ça, je pense ça s'appelle un tanga. Voilà, pour les vieux, il y a eu trois ouais.
Ouais. Ouais.
Bonsoir monsieur. Un vieux monsieur qui est ouais, tanga. Et elle avait ce truc là qui était bleu. Je me suis dit en fait, je vais jamais y arriver parce que c'est trop génial ce qui se passe. Et là, elle m'a dit je suis en train de me rendre compte que je vous raconte quand même un truc qui est vrai. Hein. Elle m'a dit « Fais de moi ce que tu veux. » Mais moi, à l'époque, je ne suis pas un surfeur, je ne suis pas un gars qui a les moyens d'entendre un truc comme ça et de réagir en fonction de ce qu'il vient d'entendre. Je ne suis pas ce gars-là encore, tu vois. Toujours peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, encore moins. Quoi. Fais de moi ce que tu veux, de la plus belle femme du monde. J'ai fait c'est encore plus long. J'ai pété un câble et donc j'ai décidé d'y aller. Et à un moment, quand je suis vraiment en train d'y aller, j'entends c'est le bruit du portail que faisait tous les jours le portail quand mon père l'ouvrait pour rentrer la voiture dans le jardin. Et là, donc c'est une note qui peut paraître tout à fait là maintenant, si on l'entend absolument, on s'en fout complètement. Mais à l'époque, chez mes parents, avec une femme presque nue sous toi, ce bruit est très important. Parce qu'il va, interrompre le moment de ta vie qui était censé être le moment de ta vie. Et je fais merde. Et je me redresse comme ça. Il me dit qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que mon père arrive. Et il va me défoncer. Mon père est hyper sévère. Il est vraiment pas cool. C'est vraiment un gars avec qui j'ai aucun rapport. Et tout. Elle me dit commence pas. Et elle commence à me faire. Elle me dit écoute, voilà, tu expliques à ton père que je suis pas allé commencer à me rassurer. Ça part dans un délire de psy. Mais tout ça très très rapidement. Et j'entends mon père qui rentre. Mon père était très costaud. Aujourd'hui, j'ai plus mon papa. Il est parti en plus, donc j'espère qu'il m'entend. Et mon père qui était très costaud. J'entends marcher et tout. Et puis mon père, il portait la cravate. Tu vois, c'était un bonhomme, quoi. Et donc il arrivait. Il entrait par la porte de la cuisine. Donc là, il était clairement là parce que la porte de la cuisine faisait un autre bruit, une autre note, pas très importante, mais quand tu sais qu'il est vraiment là. Et j'étais nu sur cette fille. Et je n'ai pas remis mon caleçon. J'ai remis mon jean. Et à l'époque, j'étais tout fin, comme un gars qui... j'étais très fin. Et mon jean tombait très bas. Et on voyait que j'avais pas de caleçon, en tout cas. Et c'était très bizarre, parce qu'il y avait une pseudo-semi-odeur de baise dans cette chambre. De transpi, voilà. Je vous rappelle qu'on était sur une île, il faisait très chaud. Et mon père a commencé à monter les escaliers pour venir à la chambre. C'est des escaliers en bois. Et je connais la marche qui craquait, c'était la 5. Je savais tout ça. Et donc la 5 a craqué, etc. Parce que mon père savait pas que la 5 craquait. Et je lui ai dit, écoute, voilà, tout ce que tu vas voir maintenant, je suis désolé. Je préférais me prendre une baigne. Enfin, pas de problème, je voulais juste qu'elle voit pas ce qui allait se passer, parce que mon père était vraiment très sévère à l'époque. Et ce jour-là, j'ai connecté avec lui, vraiment, et il est devenu cool à partir de ce jour-là. Parce qu'il est arrivé devant moi, et mon père me disait toujours « pas de ça chez moi, bonhomme ». Et là, il est arrivé devant moi, il m'a vu avec le jean trop bas, il a compris ce qui était en train de se passer, il a vu des jambes, je me suis mis devant elle pour essayer comme presque de la cacher ou de la protéger. Peut-être de la cacher, parce que j'avais pas les couilles de la protéger. Et mon père m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit, Emmanuel ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? T'as dit pas de ça chez moi. Et là, qu'est-ce que t'es en train de le faire ? J'ai dit, bah, je suis en train de le faire chez toi. Il me dit, et pourtant, je t'avais dit de pas le faire chez moi. Alors écoute-moi bien. Et là, je me suis écarté et il a aperçu cette fille qui était vraiment comme la mère. Et il a fait.
Quoi ?
Non, mais quoi ? Une beauté naturelle. Une beauté, la beauté de la nature, la mer.
Ah, d'accord.
Pas comme ma mère.
L'océan.
C'est vraiment un gros port, Emmanuel.
L'océan.
Comme l'océan. Et il a dit, alors tu vois, je t'avais dit de pas le faire et pourtant t'es en train de le faire chez moi. Et je me suis écarté et il l'a vu et il a dit, bonjour, je suis Gérard, je suis le père d'Emmanuel. Enchanté.
Mesdames et messieurs, Manu Payet sur le répondeur.
Camille, Benjamin, merci beaucoup d'être venu. On retrouve respectivement sur vos chaînes YouTube Queen Camille et vous êtes vraiment sympa. Alors c'est le nom de la chaîne, mais ouais. C'est vraiment plus vous êtes très sympa.
C'est vrai que vous êtes très sympa.
Merci d'être passé à notre club du cul et à très bientôt.
Merci.
Merci à vous. Merci.
D'habitude dans cette émission, on a avec nous Maxime Donzel et quand on lui a dit qu'on faisait une émission en public au théâtre, il a tout de suite répondu « Ah non, je déteste aller au théâtre !» Du coup, on l'a envoyé en reportage extérieur, il est actuellement dans les rues de Paris. Pour faire un micro-trottoir, on va se connecter avec Maxime. On est en direct, Maxime.
Salut Poulpe, mais non, on est enregistré en fait.
Non, enfin, je comprends pas parce que là tu viens de me répondre, donc c'est pas enregistré en fait.
Oui, bah parce que j'ai enregistré mon magnéto il y a une semaine.
Bah je comprends pas parce que là on est en train de se parler en fait, Maxime.
Non mais on a tout écrit avant, la semaine dernière. Là, c'est enregistré ce que je fais.
Bah, je comprends pas, en fait.
Bon, je t'expliquerai plus tard. Je suis Maxime Donzel et je vois des beats partout dans ma pop culture et je me suis demandé si j'étais le seul. Donc je vais demander aux gens dans la rue quelles scènes de films les ont émoustillés. C'est Culture Beat. Culture Beat. Je voulais savoir si vous êtes déjà arrivé de quasiment tomber amoureux d'un personnage de film ou de série.
Oui, ça m'est déjà arrivé. C'était Anakin Skywalker dans Star Wars. Dans mon premier amoureux.
C'était l'acteur ou le personnage ?
Le personnage.
Parce que c'est donc un personnage qui a tué des millions de gens, on est d'accord ?
Oui, mais avant qu'il soit Dark Vador, il était... C'est le visage que j'aimais bien.
The Wolf of Wall Street. Ma mère pensait que c'était un film policier d'action. Et évidemment, les scènes, déjà la vulgarité dans le lexique, et puis les scènes très osées.
Elle pensait que c'était un documentaire sur les loups, peut-être.
C'est ça, ouais, ça, oui, ça m'a marqué parce que c'est gênant.
Les valseuses, avec Gérard Depardieu. Je me souviens d'une scène où il me semble qu'ils font l'amour à une jeune fille dans l'herbe, ou quelque chose comme ça. On a l'impression d'être projeté dans cet univers-là, et comme si on était témoin de quelque chose qui était censé être de l'intime et qui ne l'était pas. Quand on a vécu dans une culture judéo-chrétienne où il y a le tabou par rapport à la nudité et ce film exposait des choses qu'on n'était pas censé voir. Donc c'est vrai que
des bits, c'est-à-dire, soyons concrets.
Ron dans Harry Potter.
Ron ? Qu'est-ce qui vous plaît chez Ron ?
Il est roux.
Hanson, cette scène-là, croise les jambes, il y a la scène où je crois l'autre il apprend aussi, où elle se fait prendre.
Sharon Stone à poil, bon.
Non, ça m'a pas choqué, ça a réveillé ma sexualité, je crois.
Fullmetal Alchimiste. Bah, il est blond, il est fort, il est alchimiste, il fait de la magie.
Ah oui, tout de suite alchimiste, là vous me faites rêver. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que ça manque de bits ?
Alors Full Metal Alchemist, j'avais pas vu venir celle-là personnellement. Pour ceux qui connaissent pas, ne vérifiez pas, c'est vraiment un manga vraiment nul. Merci Maxime, et je vois que tu confirmes l'adage micro-trottoir, micro-pénis. On est toujours dans ce hors-série crac-crac, le club du cul, la communauté de l'anu, hein, le cercle des orifices.
Oui, on enchaîne là.
D'accord,
on
très bien, ok. Donc oui, on l'a vu avec nos premiers invités sur YouTube, la parole sur la sexualité se libère. Eh ben, figurez-vous que sur Instagram, c'est aussi le cas, notamment grâce à nos deux prochaines invités, Camille Aumont-Carnel du compte Je m'en bats le clito et June Plat du compte Jouissance Club. Merci de faire une orgie d'applaudissements pour Camille et June.
C'est beau.
C'est bien.
Ouais,
c'est bien.
C'est good.
C'est bon.
Ouais. Alors Camille, tu es la troisième Camille de l'émission. Alors je précise, ouais. On peut être féministe, parler de cul et pas forcément s'appeler Camille. Hein. Donc t'as créé le compte Je m'emballe clito.
Ouais, c'est ça.
560 000 abonnés environ aujourd'hui. Et à base de punchline, en fait, tu t'attaques aux idées reçues sur la sexualité féminine. Tu parles de sujets hyper concrets, genre le sperme qui coule dans la culotte une heure après. Je suis très contente qu'on en parle. Faudrait qu'on en discute après.
Surtout en public, c'est
voilà.
Bien.
Ouais. C'est quoi pour toi aujourd'hui les plus gros tabous à briser sur la sexualité?
Je pense que déjà le tabou des règles, ça c'est encore un vrai sujet. C'est encore les règles, c'est sale. Le fait de faire l'amour pendant les règles, ça aussi c'est encore un truc, on bute là-dessus. Je dirais la masturbation, pareil, ça c'est un truc qu'on a encore du mal à, soit à l'avouer, soit à explorer, soit, et puis on a du mal à faire le parallèle, plus j'apprends à me masturber, plus j'en sais mieux, et j'en sais plus sur mon corps, et plus je vais kiffer aussi à deux, ou à trois, enfin bref, peu importe. Voilà, on est open, hein. On s'en bat le quito grave. Et je dirais que le troisième, ça serait tout ce qui est... assumer ce qu'on aime au lit. Ça, c'est vraiment un truc. On a encore cette croyance que si on aime trop telle ou telle pratique, ça va faire de nous une salope ou pas assez une salope. Enfin, tu vois, il y a une espèce de curseur du cul.
Le jugement social.
Ouais, ouais. Le jugement social et le fait de pas communiquer dans le couple.
Qui pas oser dire j'aime
pas
ça.
Pas oser dire, voilà. Mmh. Et que c'est super bien d'aimer les fessées et de se faire tirer les cheveux quand on en a. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Voilà, je connais la peine. Tout ça, ouais, je dirais ces trois-là.
Camille, je vais te poser une question high-tech.
Oh mon Dieu.
Ouais.
Est-ce qu'Instagram est un espace bienveillant pour parler de sexualité? C'est pas hyper high-tech, hein, en fait, comme question.
Instagram, non, c'est pas bienveillant.
Ah ouais?
Nous,
on a l'impression que oui, plus que Twitter. Ouais. Ou plus
non,
que...
Non. C'est quand même vachement... Déjà, c'est vachement censuré. Et nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans un milieu de niche et on a des communautés qui sont sur-bienveillantes, mais en soi, je ne pense clairement pas. Nous, on a créé une espèce de vague avec plusieurs comptes et on a l'impression qu'on est là en mode bam, on impose. Mais concrètement, non, c'est pas facile tous les jours. Et je pense que, outre la bienveillance, c'est à quel point j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est le dernier recours, quoi, pour avoir des réponses. Tu vois, il y a ce truc entre Doctissimo, le porno. Et l'école qui nous apprend à faire pousser des lentilles dans les pots de yaourt, enfin, c'est un peu chaud, quoi. Donc, il y a un peu ce truc de j'ai une question à poser avant même d'aller voir des gynécos, des sexologues ou d'en parler peut-être à nos parents, ils vont venir nous voir, nous. Il y a vraiment ce truc de. Et pourtant, on n'est pas sexologue, donc je pense que June, c'est pareil pour toi, mais je passe ma journée à dire va voir un gynéco, va voir un gynéco, va voir kiné, va voir des sexologues.
Enfin, planning familial, etc.
Ouais, planning familial, des trucs comme ça, mais il y a cette notion de confiance. Qu'on a réussi à instaurer avec nos communautés qui fait que justement ils vont nous voir nous et ils vont pas avoir le réflexe d'aller voir des pros quoi.
Et avec le format des posts Instagram, est-ce qu'il n'y a pas le risque un peu de simplifier le discours sur le sexe en une phrase, en une
punchline? Non, justement,
t'as pas peur de ça?
Non, parce que je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde et là où il y a des comptes qui vont aller vachement dans la précision, moi je suis pas là pour ça. Je suis là. En fait, c'est devenu un compte éducatif sexuel malgré lui. Et à la base, j'étais vraiment là pour balancer tout ce qui nous arrivait tout bas. Et en fait, j'ai créé le contenu qui, moi, m'avait manqué. C'est-à-dire un truc qui te rassure, qui peut t'apporter vite fait de l'information sur le fait que tu n'es pas chelou et que ça arrive à la moitié de la planète. Et accessoirement, te dire que, ouais, assume, quoi. On s'en fout, on s'en bat le clito de ouf. Donc, moi, je suis là pour ça. Après, il y a des comptes qui vont être vachement dans l'explication, dans vraiment donner des détails. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je suis là pour décomplexer et essayer de te rassurer, quoi.
Et après, pouvoir dire, voilà, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller
voir.
Ouais,
exactement. Et puis, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on a chacune et chacun notre ligne édito.
Ouais.
Et on se complète super bien. Et qu'il y a zéro concurrence, parce qu'on n'est pas là pour ça. On défend une cause avant tout. Mais chacun fait ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui marche.
Justement, Camille, j'ai à nouveau une question high-tech.
Oh my God.
La plupart des posts viennent de toi, c'est toi qui les écris, mais il y en a quelques-uns, c'est des témoignages ou des messages de tes followers que tu mets en post.
Mm-hmm.
C'est quoi les questions, les thèmes qui reviennent le plus souvent dans ta communauté?
Moi, c'est des questions... en fait, c'est ouf parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la panique, c'est de tomber enceinte et c'est pas de choper des conneries. Donc moi, c'est vraiment tout est bon pour ne pas tomber enceinte. Et avant même ça... Il n'y a pas cette question de... Non, mais outre le fait que... Enfin, je sais pas, on est fertile trois jours dans le mois, mais par contre, tu peux choper des maladies tout le temps. Donc vraiment, tout ce qui est contraception, ça revient de ouf. La notion du consentement. Là, je vais un peu plomber l'ambiance, mais moi, on me demande... Je vais te raconter ce qui m'est arrivé, tu vas me dire si j'ai été violée.
Mmh.
Et ouais. Ça, c'est à l'appel. Je reçois 300 messages par jour et ça, c'est à l'appel. Donc la notion du consentement est encore une définition qu'on...
Mais ça, c'est hyper dur parce que vous n'êtes pas du tout, et June, tu peux aussi répondre, mais vous n'êtes pas du tout formé à gérer ce genre de truc. Donc
pas
vous tapez,
qualifié,
ouais, et vous tapez une espèce de pression complètement dingue.
Et surtout gérer le malheur des autres. Alors
avec le truc, genre, je dois répondre parce que je peux pas laisser quelqu'un.
Bah, c'est ça. Ouais. Puis surtout que je me dis, enfin, tu vois, ceux qui nous écrivent, c'est ceux qui. Il y a déjà eu le tri avec ceux qui kiffent ce qu'on fait, mais qui vont se dire, OK, elles sont déjà débordées, on va pas le faire. Donc je me dis, ceux qui nous écrivent, c'est qu'ils vraiment, ils attendent une réponse. Donc je pense qu'on a toutes le même réflexe de, non, mais en fait, on répond aux personnes qui nous écrivent. Et outre ça, on est sur un truc super virtuel. Le seul lien qu'on peut avoir avec nos communautés, c'est tout simplement de répondre aux gens. Donc on s'est un peu formé sur le tas, quoi. On s'est un peu formé sur le tas. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de dire, écoute, je sais pas. Très sincèrement, je sais pas, et je vais te rediriger vers des personnes qualifiées. Mais ouais, la notion de consentement, IST, MST et contraception. Ça, c'est vraiment des trucs.
Bah, la contraception, c'est simple, c'est une pomme de terre dans le vagin, et c'est ça. Hein.
En fait, la capote, tu la mets sur la langue.
Ah.
Et après, ouais, tu vois le délire. Non, c'est un autre délire.
J'aime bien.
T'as une image.
Ouais, j'aime bien.
Alors, on est dans le club du cul, et figurez-vous que Camille follow June sur Insta, et inversement.
June follow Camille aussi, ouais.
Voilà, c'est assez foufou quand même,
c'est
la technologie aujourd'hui.
Ouais, c'est à moi, pardon. C'est vrai. Donc, c'est une très belle... Ah ben justement, Camille, c'est une très belle transition.
Merci.
D'abord technologique, mais aussi humaine. Alors, June, t'as créé le compte Jouissance Club, qui est devenu une référence, bientôt 400 000 abonnés.
Ouh là là, oui.
Ce qui a fait ton succès, sont tes illustrations à la fois très belles, mais aussi très explicites sur le sexe. Donc, des fois, par exemple, on voit la couille. C'est trop bien. Comment t'as eu l'idée de créer ce concept?
Un amant m'a demandé un jour où se trouvait une zone dans le vagin. Il avait lu un article sur Vice. Et je ne savais absolument pas ce que c'était. Du coup, je suis allée faire mes recherches moi-même sur Internet, le grand Internet. Ah. Et j'ai découvert que c'était une zone assez difficile à atteindre avec le pénis. Du coup, je lui ai fait direct, comme je suis illustratrice, je lui ai fait un dessin. Et oui, pour qu'il puisse l'atteindre. Et quand j'ai fait le dessin, je me suis dit, oh putain.
Je tiens un truc.
Oh putain.
Le dessin, je tiens un truc.
Je vais me faire bien doigter. Je lui ai envoyé et en effet, je me suis fait magnifiquement doigter.
Bravo.
Merci. Merci. D'autres questions?
Je voudrais voter pour toi. Je voudrais voter pour toi au prochain municipal pour te voir à chaque fois être acclamé comme ça. Tes discours de mère. Ça. Je me suis bien fait doigter. Doigter pour moi, merci.
Mes parents écoutent.
Dans les dessins, ce qui est super aussi, c'est qu'il y a plein de petites flèches qui indiquent le mouvement.
Oui.
Parce que voilà, dessin, on ne sait pas forcément comment faire, mais là, il y a ce truc de mouvement. Moi, par exemple, j'ai appris comment faire un massage de gland. Ah, je ne savais pas. Et maintenant, je sais, grâce à toi. Comment tu fais pour trouver ces mouvements? C'est-à-dire, tu testes avec ton partenaire et hop, après, tu prends des notes tout de suite?
Oui. Arrêtez de rire. C'est chiant de faire l'amour avec moi. J'ai un petit carnet, je note. En même temps, j'y réfléchis. Après coup, je lui demande, ça, ce que t'as fait, c'était quoi? Et ouais, je redessine, je note. Et puis, j'explore beaucoup. Et quand je suis en manque d'imagination, je vais, quoi, c'est pas drôle.
Ouais, c'est génial. C'est trop bien.
C'est déjà arrivé de t'interrompre en plein truc en disant, attends, là, faut que je dessine.
Oui.
Ah ouais. Et inversement.
Plus personne ne veut baiser avec moi d'ailleurs. Si quelqu'un dans le public ce soir est libre après.
Non mais du coup inversement, ça veut dire que quand on te voit avec ton carnet, ça veut dire ok, on va baiser.
Ouh.
C'est ça?
Oui.
C'est un signal, d'accord.
C'est un signal.
Tout à l'heure, je disais que tu dessinais la couille, et c'est trop bien. Mais j'ai remarqué quelque chose dans ton travail, c'est pourquoi tu dessines jamais de pénétration avec un pénis?
Ah mais parce que ça, tout le monde sait faire, c'est facile. Enfin, je veux dire.
Moi, non. J'ai...
Non, c'est vrai, tu ne pénètres rien.
Non.
Oui, tout le monde sait faire. C'est surreprésenté dans le cinéma, dans le porno, de partout. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Moi, en tout cas, c'est une pratique que j'adore. Certes, j'adore me faire pénétrer. Mais.
Tes parents écoutent.
Mes parents écoutent toujours. Papa. Il est peut-être dans la salle, ça se trouve.
Oui, parce que tu le cherches, je vois, tu le cherches du regard.
Papa. Et qu'est-ce que je disais?
La pénétration.
Et
de...
oui.
Ouais.
T'as rien contre, mais.
C'est chaud, non? Vous trouvez pas?
C'est pas un truc genre la pénétration, on s'en fout. C'est...
Non,
ça
j'adore ça, c'est génial.
T'as envie de montrer autre chose, quoi.
Ouais, j'avais envie de montrer autre chose, et surtout que moi, c'est pas la meilleure façon pour moi d'atteindre l'orgasme, mais j'avais envie aussi de montrer qu'on peut aller plus loin, quoi. Voilà.
C'est bien.
Oui,
tout c'est
à
super.
Et ça parle aussi bien de sexualité féminine que masculine, parce qu'il y a pas mal de méconnaissance aussi des hommes sur leurs propres organes génitaux, la prostate, où c'est situé, etc. Là, tu expliques vraiment, genre, voilà, ça va bien se passer, c'est pas très loin, c'est facile.
Pour moi,
à
c'est un des plus grands tabous à faire tomber, c'est les personnes qui ont un pénis, essayer de leur faire explorer leur rectum, tout simplement, qui se mettent des doigts un peu. pour voir, ouais. Tout seul au
avec
début.
Cette voix-là.
Mettez-vous des doigts.
Allez, là.
Alors, merci beaucoup, Camille. On peut s'abonner à ton compte, mais aussi acheter ton
livre. Je m'appelle June.
Pardon.
Mais tu fais, c'est pas grave.
Je vais la refaire. Merci beaucoup, Camille.
Merci.
On peut s'abonner à ton compte et aussi acheter ton livre Je m'en bats clito aux éditions Kiwi. Et tu prépares en ce moment aussi un One Woman Show, donc on a hâte de découvrir sur les planches. Peut-être,
oui.
Peut-être un jour au Théâtre de l'Œuvre.
Mais oui, ça va être trop
et
bien.
Et June, excuse-moi, on peut te suivre sur Jouissance Club et on peut également se procurer ton excellent livre Jouissance Club, une cartographie du plaisir. C'est aux éditions Marabout.
Oui, achetez-le.
Merci.
Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et c'est le moment, de retrouver Maxime qui est toujours en micro-trottoir. Alors, j'ai toujours pas très bien compris si c'était en direct ou si c'était enregistré. Maxime, c'est en direct, c'est ça?
Mais non, Poulpe, je suis toujours en différé. On se parle pas vraiment là, en fait.
Si, en fait, Maxime, on se parle, en fait.
Mais non, mais je savais que tu comprendrais pas, donc j'ai fait venir quelqu'un qui va t'expliquer. C'est toi, il y a une semaine, Poulpe.
Ouais, en fait, salut Poulpe, en fait, c'est moi, Poulpe. Là. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré ce magnéto, mais c'est du direct.
Mais non, pas en direct, justement.
Bah si, on est en direct, là.
Ah, tu comprends rien. Non, mais je sais plus quoi faire, là. On lui a expliqué depuis 2 heures. Faites quelque chose.
Je comprends rien, en fait. Je comprends pas. Bon, je comprends rien. Donc bref, on va écouter Maxime qui, cette fois, a demandé aux gens dans la rue ce qu'ils pensaient des dick pics. C'est Maxime Donzel.
Si vous avez suivi ce qui s'est passé dans l'actualité, le candidat à la mairie de Paris a eu des photos de son sexe qui sont sorties, etc. Est-ce que la question des dick pics, c'est dangereux ces histoires-là?
Je crois qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent si l'autre personne donne leur consentement.
C'est la destination de ces photos qui peut être problématique.
Je comprends que ça affecte, par exemple, un candidat à la mairie. C'est pas nécessairement un truc intime que l'on se doit de partager.
Ce que les jeunes actuels ne comprennent pas, c'est qu'il y a toujours une trace numérique de leur activité. C'est-à-dire que même s'ils déposent une photo sur un site et qu'ils le retirent, il y a une empreinte quelque part, et parfois ces photos-là peuvent les poursuivre pendant des années.
Je trouve que souvent les dick pics sont très laides, personnellement. Oui. Enfin, moi j'ai cette sensation.
Mais c'est vrai que côté mise en scène, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est mis.
Ouais. Bah, ils n'arrivent peut-être pas à se mettre en forme artistiquement.
Bah, c'est fait maison.
Je peux dire que c'est pas des angles très valorisants. Non. Quand je reçois des dick pics non sollicités, du moins, c'est pas les plus beaux talents photographiques.
Je pense que bon, on a droit de vivre et être libre dans sa sexualité et dans ses fantasmes ou dans ses échanges. Pour moi, c'est ça.
Je pense que ça fait un peu partie de notre société, malheureusement, aujourd'hui, de recevoir des trucs dans le genre.
Non, mais il pourrait faire un effort et s'épiler les couilles, par exemple.
Il manque pas grand-chose, mais ouais. Voilà.
Vous aimez les couilles parasées?
Non, pas forcément.
Merci Maxime qui répond jamais hein, quand je lui envoie des chat pics, mais bon. Là les amis, on va faire un truc de dingue. On est dans un podcast.
Ouais.
Et on va recevoir des gens qui ont un podcast. Ça va faire un podcast dans le podcast.
Wow, 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 wow! Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité?
Non, jamais, jamais. On est le premier podcast à recevoir des gens d'un autre podcast, c'est fou.
Mais par contre, technologiquement, est-ce que ça soulève beaucoup de questions, Camille?
Ouais, quand elles vont arriver, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y aura peut-être un trou noir ou une explosion.
Donc
ou...
les gens dans le public, protégez-vous, parce que là, on va tenter un truc qui n'a jamais été fait. Hein, des gens d'un podcast dans un autre podcast, faites attention.
On est très heureux de recevoir deux créatrices de podcasts qui cartonnent. Sophie-Marie Larouy pour « À bientôt de te revoir » et Lorraine Bastide pour « La poudre ». Applaudissez-les bien fort.
Bonjour.
Salut.
Pardon, vous avez été trop mignonne, vous êtes rentrée en vous tenant la main.
Ouais, parce qu'on s'aime très fort.
Mais c'était fou. C'était trop beau.
C'était pas oufissime non
si,
plus. Hein,
ouais, c'est... Je m'attendais pas à ça. Écoute, j'ai des petites fêlures.
Donc quand tu vas aux Jeux Olympiques, les gens qui tiennent les mains des gamins avant de chanter l'hymne, toi t'es en furie.
Je
quoi.
Chiale. Pourquoi les Jeux Olympiques? Pourquoi t'as...
Mais
il y a plein d'autres. Bah, ok. Ok. Sophie Marie, t'as créé le. Puisque tu fais la maline, on commence par toi. Sophie Marie, t'as créé le podcast À bientôt de te revoir, une émission d'interview. J'ai vraiment un poil pubien sur mon texte. Ah. Une émission d'interview qui est carrément gueule rire, si tu me permets l'expression. Oui.
Ouais.
Sophie-Marie, comment t'abordes la sexualité dans ton émission?
Bah, ça existe, donc on va pas faire semblant. En fait, tout est sexe.
Wow.
Vraiment
Michel
tout
Foucault sort de ce corps.
C'est très profond.
Soit on le fait pas, soit on le fait, mais on tourne autour de ça. Comme disait Ophélie Winter, tout le monde le fait.
Ah. La foi. Non.
Tout le monde le fait. Tout le monde. C'est une phase B un peu plutôt. J'en parle comme ça, je sais pas quand ça vient, quand j'ai une histoire, une anecdote ou une envie, un désir.
Est-ce que tu sexualises tes invités? Je me suis
de
posé
ouf
la question. Ouais, hein.
Ouais, ouais.
Je l'ai vécu, donc je peux le dire. Ouais,
ouais, ouais, y a toujours. Mais c'est ça, c'est. Enfin, je veux dire, c'est même pas forcément sexualisé avec, je veux pas, des vieux clins d'œil comme ça en disant.
Mais donc c'est. Là, pour les gens qui écoutent, elle sort la langue.
Ouais. on flirte toujours un peu, que ça soit avec la banquière ou. Ou
la boulangère.
Ouais. J'essaie de t'aider. Chercher d'autres métiers du tertiaire.
Des apiculteurs, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, on flirte souvent. Ouais, ouais, ouais.
Voilà.
Il y a un truc qui revient tout le temps dans ton émission, c'est que tu joues à titre. Alors,
ah ouais.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est en y allant profondément?
Titre. Ah, 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 ah. J'ai essayé d'apprendre titre à mon père, mais je crois que... Il a refusé l'obstacle comme un cheval, tu sais, avant un obstacle, il a fait « Ah non, vraiment !» Et il a fait « Ah !» Il a arrêté de rigoler en disant « J'ai pas compris. » Alors qu'il a très bien compris. Hein.
Mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris.
Le titre, en fait, chaque situation de la vie, comment, je suis pire pitch, vraiment.
Ouais, ouais, mais c'est compliqué à expliquer. En vrai, c'est compliqué.
Comment?
C'est une phrase à double sens, finalement.
Quand un truc fait titre.
J'ai roté au milieu titre de ma phrase, personne ne s'en est rendu compte.
Quand un truc fait titre, c'est ça.
Quand un truc fait titre, tu dis titre.
Quand, comme ça fait sens, ça fait titre. En gros, dès qu'il y a une... On peut dire, oh là là, je suis allée trop loin.
Titre.
Voilà, bah, tout est sexe, en fait. Tout le temps. C'est ça, titre. Non, mais moi, faut pas me laisser pitcher. Pour moi, Titanic, c'est... Il y avait de la place sur la planche à la fin, donc... Et la Bible, franchement, ça va pas mal.
Sophie-Marie, ouais, pardon de te couper.
Non,
hein,
mais dans, t'inquiète.
Aujourd'hui, tu fais à bientôt te revoir. Mais tu as pendant longtemps co-animé l'émission sur Mademoiselle, qui est une émission de cul. C'était il y a 3 ans à peu près. Est-ce que les choses ont bougé depuis?
Ouais, sur l'inclusivité, notamment. Ouais. Parce que à l'époque de l'émission, qui était notre podcast bimensuel sur Mademoiselle, à mon sens, on était très hétéronormé, donc on partait du principe que quand on parlait des relations, c'était toujours, enfin, on le faisait un peu parce qu'on nous, enfin, la société nous donne ce modèle-là de qu'il faut être par pair,
ouais.
Voilà, d'un homme. Biologiquement né homme et d'une femme, voilà, pareil, bio à la naissance, bref, vous avez compris quoi. Et maintenant j'ai un peu mal au cœur de me souvenir de ça, mais après on sait bien, on a avancé, et moi j'ai fait mon mea culpa auprès des gens en me disant bon, c'est, on voulait bien faire mais on n'a pas été assez inclusif, c'était long ma réponse, ah là là, je me suis fatiguée.
En même temps, comme si les choses ont pas mal bougé aussi ces dernières années par rapport à ça. Enfin, il y a.
Ouais, bien sûr, mais j'aurais.
Une prise de conscience collective sur le fait d'être inclusif.
J'aurais bien voulu qu'on soit un peu plus en. Comment ? Avant-garde, ouais.
Ouais.
Ça m'aurait fait plaisir, quoi. Parce qu'on faisait tout le temps les malines en disant ouais, il faut, nan, nan, ni, nan, nan. Puis en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui se sentaient pas concernés ou qui raccrochaient le wagon. Et ça me. Voilà, c'est tout.
Pardon de te reposer cette question.
Non, mais parce que je me sens pas très fière, en fait, d'avoir...
Mais ça évolue, c'est
oui,
normal.
Oui, je sais, mais
les
bon, tu vois, c'est pas... Si j'avais été un BDE... J'ai vraiment appris ce mot il y a un mois.
Ouais.
Donc,
j'ai vraiment cru que t'allais t'arrêter là.
Non, mais bon, voilà, si j'avais été déguisée en asillon il y a 20 ans, je regretterais quand même, tu vois.
Ouais, mais les choses évoluent, donc...
Voilà.
Ok.
Bon.
Dans ton émission « À bientôt de te revoir », il y a un des trucs que tu fais aussi, c'est de raconter les détails en apparence anodins de la vie, mais en fait, pas si anodins, les petits chroméskis de la vie. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des chroméskis de cul?
Ah ouais, bah ouais, de ouf. Tout ça pour dire 2 fois le mot chroméskis, tu crois que je t'ai pas cramé? Donc dans les chroméskis... De cul, moi j'aime bien quand les gens ils ont un orgasme et puis en fait c'est un orgasme en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a celui qui est officiel et il y a l'officieux derrière, celui où vraiment il pète un câble, tu vois. Donc au début c'est genre un peu comme il faut, tout bien, et puis après tu vois le... Ça c'est un chromeski que j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi quand on me harangue pendant
l'amour.
Ouais.
Mais genre hey, ça va. Comment on t'harangue, je m'en bats.
Comme si j'étais l'orange à la baie.
je vois pas.
Souvenez de l'orange à la baie.
Le cycliste,
toi, Tour de France. Go.
C'est voilà. Fou de dire ça en 2020. C'est fou. Donc ça veut dire quoi? On t'arrange en disant allez plus vite, vas-y.
Ouais, c'est pas, tu sais, quand t'es à l'aube de la crête. Titre. Merci.
J'ai pas été très.
Et qu'on dit, tu vois, vas-y, voilà, c'est par là, machin, vas-y Laurent. C'est un chromeski, ça, c'est bon.
C'est un bon chromeski, merci. Voilà. Bon, tu sais que je t'adore, Marie-Sophie Leroy.
Oh, bâtard.
Pour te rendre hommage, j'ai fait comme dans ton émission et on t'a apporté une petite mignardise. Mais alors, attention, ouais. Parce que hier, voilà, Sophie-Marie, hier, c'était ton anniversaire, ouais, petite coquinette. Ouais, alors, ouais. On t'a amené une mignardise.
Oh, c'est chou.
Il n'y a c'est que marrant, les gens très... Non, mais non.
Non, c'est pas moi.
Oh, c'est trop mignon.
Ah oh bah merde. Ça s'est éteint.
Merci chérienne.
On peut chanter hein, allez-y hein.
Joyeux anniversaire.
Attendez, elle est pas encore prête.
Vidéo.
Est-ce que vous pouvez dire joyeux anniversaire en retard? Joyeux anniversaire en retard.
Anniversaire en retard. Joyeux anniversaire en retard. Joyeux anniversaire en retard,
Sophie-Marie Larouille.
Merci, au revoir. Pas vrai.
Est-ce que tu peux décrire ton petit gâteau avant de souffler dessus?
Alors, c'est un gâteau doté d'une bougie, celles qui sont à 1,40 les 10, je pense, avec la petite fleur qu'on pourlèche après et qu'on remet.
Merde.
Sans la laver.
Attends, parce que... Voilà.
Qu'est-ce que tu fais dans...
Parce que c'est pas hyper évident, voilà.
Ah ouais, et après, ceci est la légende selon laquelle les femmes auraient un bouton de lisse à l'issue de leur grande lèvre. C'est un petit...
C'est une vulve.
Comment on appelle le gâteau?
Un cupcake.
La vulve, cupcake, j'avais, mais pas cupcake. C'est un petit cupcake vulve qui a l'air très bon.
Cake.
Et qui, alors, des lèvres très écartées, hein, très ouvertes, et un bon clito bien rond, là. Je vais souffler et faire un vœu pour toute l'année avec vous. 3, 2, 1. Merci, merci.
T'as goûté, c'est bon? Ça a bon goût.
Mmh.
Waouh!
Ouais,
ouais, super. Alors ça tombe bien, on parle de goût, ça tombe bien, j'ai sorti un livre, Le goût du baiser aux éditions Thierry Magnier, 14,90€. Ah. On est toujours dans le club du cul. Or, s'il y a bien un truc qui est sexy, et je suis pas du tout ironique, c'est le féminisme, c'est l'égalité des sexes. Et je me tourne maintenant vers Lorraine Bastide, créatrice du podcast La Poudre. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir.
Donc les femmes que tu interviews te parlent de leur parcours professionnel, artistique, militant, mais aussi de leur vie privée. Et il y a une question que tu poses souvent à tes invités, c'est comment vous entendez-vous avec votre utérus? Pourquoi cette question?
Ouais, mais moi c'est vraiment pas sexuel en fait, les trucs que je raconte dans La Poudre. Je me demande vraiment parfois pourquoi vous m'avez invité. Non, je rigole.
Oui, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que finalement, comme dans La Poudre, en fait, on élude de fait beaucoup le sujet des hommes. Pour tout ce qui concerne les femmes hétérosexuelles, on parle jamais de leur partenaire. Je crois qu'on en a parlé juste avec toi un peu de sexe parce que c'est ta spécialité en tant qu'experte, etc. Et finalement, quand on parle d'utérus, c'est plus une façon de parler d'injonction à la maternité, de parler de violence gynécologique, enfin des trucs qui sont vraiment pas hyper sexy, quoi. Qui font
mais c'est
pas...
la sexualité. Ouais. Ça fait partie de la sexualité.
C'est vrai.
Les rapports au corps.
C'est vrai, mais ça fait moins mouillé que parler de clitoris ou de
ce. Oui, mais c'est important d'en parler.
Mais ouais. Il faut en parler, c'est hyper important. Et mais c'est plus une façon d'explorer. Les injonctions, je dirais.
Voilà, les trucs qu'on se prend dans la figure quand on est doté d'un utérus, ou d'ailleurs quand on n'en est pas aussi et qu'on se revendique femme. Enfin bref, il y a plein de façons qui font que le fait d'avoir un utérus ou pas, ça pose beaucoup de questions à tout le monde, alors qu'en fait, on pourrait juste nous foutre la paix avec nos utérus, quoi, j'ai envie de dire.
Alors justement, Lorraine, j'ai pas mal bossé sur cette interview et je me demandais comment tu t'entends avec ton utérus.
Mais moi, je
t'as déjà posé cette question?
Non, on me l'a jamais posée. Ouais. Je te remercie parce que personne ne me la pose jamais, en fait. Tu vois, il était quand même temps que quelqu'un se préoccupe de moi. Waouh, je suis hyper émue. Non, mais moi, à l'origine, cette question, je l'ai posée parce que justement, parce que putain, il a morflé mon utérus, quoi. Je me suis tapée deux césariennes, deux fausses couches, un IVG, je sais pas combien de trucs atroces qui lui sont arrivés dans toute warrior, ma carrière quoi. Gynécologique, mais warrior comme à peu près en fait toutes les meufs, toutes les meufs. Toutes les meufs. Voilà, mère ou pas mère, c'est un endroit qui est perpétuellement la cible de violences qui sont en plus hyper tabous, hyper silenciées. Là, quand on voit ce qui se passe avec le hashtag mon postpartum, moi, j'arrive même pas à cliquer dessus. Regarde.
C'est quoi tu parles,
c'est, mon postpartum, c'est des militantes féministes qui ont lancé ce hashtag pour pouvoir parler de tout ce qui se passe en fait, après que tu as accouché. Quand tu perds ton sang en fait pendant 15 jours et que personne t'a prévenu.
Et que t'as des couches en fait.
Ça, tu portes des couches, t'as encore des contractions pendant 15 jours, mais personne te l'a dit.
Mais je le savais pas.
Et t'es supposé rayonner bonheur parce que c'est le plus beau jour de ta vie, alors qu'en fait t'as envie de mourir. Mais tu n'as pas le droit de le dire.
Plus personne te calcule aussi parce qu'il y a la petite personne.
Voilà, personne n'en a rien à foutre. Et ça, ce genre de choses, c'est incroyable de se dire qu'il y a encore. Enfin, la discussion commence. C'est-à-dire que, ah bah tiens, si on parlait de ce sujet-là, dis donc, depuis le temps, je trouve ça fou. Ouais. Donc voilà, moi ce qui me choque, c'est la silenciation, mais c'est toujours pareil en fait. Enfin, tout ce qui s'est passé autour de MeToo, c'était la même histoire en fait. Toutes les meufs violées qui avaient honte d'avoir été violées alors qu'elles étaient victimes, mais qui n'osaient pas le dire. Donc voilà, à chaque fois que je parle, ça plombe l'ambiance.
Non, pas du tout.
Bah non, moi je dirais. Non, mais. Non, moi je dirais que c'est plutôt intéressant plutôt que ça plombe l'ambiance. Mais...
Bah oui, on a bonne mine d'arriver derrière, t'as pelleté la neige pendant 2 heures et nous on arrive dans le chemin en disant ah bah dis donc, on peut bien marcher. Ah bah oui, et.
Alors, Lorraine, tu as co-créé Nouvelles Écoutes, qui est une société de production de podcasts. J'ai bien dit, c'est ça?
C'est exactement ça, ouais.
Bravo. Cool, putain, j'ai bien bossé.
Mon associé, Julien Neuville.
Exactement. Il y a un engouement pour ce format, le podcast, en ce moment, et en particulier pour les podcasts sur la sexualité et le féminisme. Est-ce qu'il y en a trop?
Non, bah trop de féminisme, on est loin du compte, mon gars. Franchement.
Est-ce qu'il y a trop de films sur la Seconde Guerre mondiale?
Non, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Ouais. Il n'y en a vraiment pas assez.
Et en fait, la question, c'est aussi est-ce qu'on n'a pas peur que ça soit une mode?
Ouais, est-ce que c'est plus une mode que.
Qui risque de passer parce qu'à un moment donné, les gens vont dire oh, encore un 12 millième podcast.
Bah, ouais, je sais pas. Non, non franchement. Je sais pas, non.
Merci Lorraine.
Non mais après voilà, le côté le féminisme est à la mode, oui. Je trouve ça plus embêtant.
Et parler de sexualité
en fait,
aussi.
Je trouve que quand Dior fait un t-shirt « We should be féministes » et le vend 500 balles, oui, nous avons un problème. Mm-hmm. Quand plein de meufs disent « Tiens, je vais faire un podcast pour parler de mes problèmes avec un point de vue féministe », je me dis pas qu'on a un problème, je me dis que les choses vont dans le bon sens. Et que peut-être que justement l'accumulation de contenu va peut-être... du coup dégonfler l'effet de mode et puis parce qu'en fait il y a plein de sous-genres dans le féminisme, il y a plein de façons de parler de féminisme. On peut parler de la sexualité, on peut parler du travail, on peut parler de la culture, on peut parler de plein de choses. Donc moi j'ai envie que ça dure dans le temps et je pense que c'est la meilleure façon justement que ça dure, c'est qu'il y ait plein de contenu et plein de personnes qui s'en emparent.
Et là t'as créé un podcast avec Ovidie, tu peux nous en parler?
Ouais, alors en fait ça s'appelle Intime et Politique. Intime et Politique, c'est un flux de documentaires en fait. Où donc le premier documentaire qui a été mis en ligne, c'est Ovidie qui l'a réalisé. Ça s'appelle Juste avant et elle échange avec sa fille qui a 14 ans. C'est hyper intéressant parce qu'Ovidie, voilà, c'est une militante féministe pro-sexe qui a réalisé des documentaires sur la prostitution, qui a enquêté sur le porno, qui revendique un discours très libre dans l'espace public sur la sexualité. Enfin voilà, qui rejoint pas mal d'ailleurs de tes positions sur cette catégorie pro-sexe et des féministes, Camille. Et puis d'un seul coup, elle a une fille de 14 ans.
et qui sort en mini-jupe. Et là, elle se retrouve dans la peau d'une vieille réac qui lui dit « Mais
tu sors pas
comme ça !» Et là, elle se dit « Alors, attends.
Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» Et donc, elle a consacré 4 heures à réfléchir à cette question. En fait, être mère et féministe, comment on fait ? Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire ? La réponse est évidemment non, parce qu'on est en fait avec nos imperfections. Et puis, on entend sa fille, qui est vraiment géniale. Ça permet aussi de voir que la génération actuelle, voilà, on peut croire parfois qu'elle est super déconstruite, qu'il y a plein de choses qui ont été atteintes, mais il y a quand même encore du boulot. Et voilà, mais c'est super. J'adore ce documentaire.
C'est quoi le format ?
Je suis très fière de l'avoir produit. C'est 4 heures. Donc, ça va être des documentaires qui vont faire entre 4 et 6 heures. Là, Ovidie, c'est. Combien ça fait ? 4 divisé par 30 minutes, ça fait 8, n'est-ce pas ? Ouais. Donc, c'est 8 épisodes de 30 minutes.
D'accord.
Mais ça peut être plus, moins. Et le prochain documentaire sort tout bientôt. C'est Océan, qu'il a réalisé. Et on va parler de travail du sexe. Et ça dure, pour le coup, c'est 10 épisodes et il dure 6 heures, celui-là.
Cool.
Voilà. Sophie Marie et Lorraine, on vit aujourd'hui, on pourrait dire, une libération, la parole des femmes. Et
attends, Camille, je vais le faire parce que c'était pas hyper clair comment elle le disait.
Oh, wow.
Donc Camille, voilà. Donc Sophie Marie et Lorraine, on vit actuellement une libération de la parole des femmes.
Non, excuse-moi, Poul, c'est pas clair du tout. C'est hyper confus. On vit une libération de la parole des femmes.
Ah oui.
Voilà. Est-ce que le podcast est un bon format pour ça ? C'est une vraie question en plus, c'est pas une question. Mais est-ce que le podcast autorise autre chose par rapport à cette parole ?
Le podcast, ce qui est bien, c'est que c'est un endroit qui est très safe. En fait, il n'y a pas un hater ou un mec ou un troll ou n'importe qui va surgir à tout moment déjà pour te dire ce que tu dis, me semble, c'est pas tous les hommes d'abord. Et voilà, ça c'est. C'est vrai, quand on est sur Instagram ou sur YouTube et qu'on a. Bon, alors il y a des commentaires aussi dans le podcast, mais c'est pas du tout la même chose. Les interactions sont beaucoup plus diluées dans le temps. Et puis les gens qui vont écouter le podcast, a priori, ils viennent l'écouter parce qu'ils ont envie, quoi. Ils tombent pas dessus par hasard. Donc je pense que ça en fait un espace qui est vraiment chouette pour ça. C'est assez safe, quoi. Et puis, c'est un espace aussi où on a le temps. Et moi, je pense que ce qui est super important quand on parle de féminisme, quand on parle de sexualité, de ces thématiques-là, c'est de pouvoir être dans la nuance et de sortir des stéréotypes et de dire les femmes sont ci, les mecs sont ça.
Prendre son temps pour bien expliquer.
Et le podcast, c'est le format, en tant que journaliste, moi, je m'éclate avec parce que j'ai jamais eu autant d'espace pour dire des trucs, quoi. Donc, je pense que pour ça, c'est un bon outil. C'est chouette.
Et Sophie-Marie ?
Ouais.
Ok, merci.
Non, mais l'intimité, la frontière avec notre intimité à nous, parce qu'on met forcément de notre intime dans les interviews qu'on fait, elle est beaucoup plus poreuse, j'ai l'impression, qu'avant, dans les trucs très formels, qui étaient pas moins bons, mais qui sont juste, plus formels, où on a été appris à l'école de journalisme, machin, à faire les 5 W, blablabla. Là, il y a forcément un moment où, quand ton invité se livre, toi aussi, t'as envie de rebondir en disant quelque chose qui concerne, quelque chose qui te concerne vraiment et pas juste une théorie théoricienne de la théorie. Et je trouve que c'est là qu'on avance, quoi. Parce que c'est bien beau de dire il faut faire comme ça, mais si tu te la galères, bon, c'est pas juste pour les gens qui entendent il faut faire comme ça, merde, putain, moi je fais pas comme ça. Vous avez compris ou pas? Non, mais vous voyez ou pas?
C'est
la fin de la théorie.
Oui, mais c'est ton anniversaire.
C'est plus incarné, en fait.
Sortir des injonctions et dire « je », mais c'est un bon média du jeu. Et c'est d'ailleurs, quand on dit « me too », on dit « je », en fait, et c'est ça qui est fort. Et le podcast, c'est un endroit parfait pour dire « je ». Ouais.
Et c'est vrai que vous êtes vachement préservé des commentaires des autres. Plutôt dans l'émission, Camille disait que sur YouTube, par exemple, elle était en première ligne des commentaires, c'était très compliqué. C'est vrai que vous, du coup, il y a ça en moins dans le podcast.
Et puis il y a en plus énormément de retours hyper bienveillants. Ouais. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que les gens, quand ils écoutent un podcast et qu'ils ont envie d'écrire à l'hôtesse de ce podcast, ils font « bon, je vais lui envoyer un mail », mais presque une lettre, quoi.
Ah ouais.
C'est-à-dire que c'est pas un petit truc genre « wesh, c'est cool », c'est genre « Lorraine ». J'ai écouté et je reçois des très longs courriers, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment le mot. Et ça montre que c'est pas le même rapport, quoi. Tu rentres vraiment dans un truc très, très intime, quoi, avec les auditeurs et auditrices, c'est chouette.
Mais après, c'est horrible quand il y a des agressions, des e-agressions.
Ouais.
Mais j'adore regarder les mauvais commentaires sur les applis de podcast et tous les gens qui mettent 0 étoile en disant c'est nul. Et là, genre, mais gars, mais passe ton chemin. Enfin, t'étais pas obligé, hein, tu sais. Parce qu'en plus, il y a souvent les gens, ils ont vraiment écouté. C'est-à-dire qu'ils avaient leur téléphone, ils ont pris des notes et tout pendant le truc, et ils disent genre, j'ai vraiment détesté à minute 38 quand ils étaient... Ah, ça c'est de l'amour-haine, ça.
Merci Sophie-Marie Laroui et merci Lorraine Bastide. On peut écouter donc vos podcasts. À bientôt de te revoir et La Poudre sur toutes les plateformes. Vous restez avec nous pour la séquence d'après.
Ouais, avec plaisir.
Chouette. Ouais.
Ouais.
Ok. Il y avait beaucoup de fleurs ce soir, mais comme dans tout bouquet, il y a un final.
Oh, waouh.
Mais ta gueule, putain.
Je suis un peu le zizou de Word, en fait. Comme vous le savez, nous terminons toujours le podcast Crac Crac par un moment explicite nommé Love Story. Et là, ça va être doublement explicite. Ça va être explicitite. Wow. J'osais pas te regarder, Lorraine, dans les yeux.
T'as vu ce sourire,
ouais, en fait. Nous sommes dans un temple de l'art dramatique. Ici, les plus grands textes ont été joués, mais quid des John Birut, Marc Dorcel et autres XXX amateurs porn slut vieilles matures. Le commun des mortels se dit que les dialogues de porno étaient nuls, mais si seulement c'était mal joué. Nous avons fait appel à deux grands comédiens pour interpréter des dialogues de vrais films porno ce soir sur cette scène. La première... Vous l'avez vu dans... Elle a joué dans la série... Et elle a joué le rôle de... Mesdames et messieurs, la flamboyante Audrey Pirot. Quant à l'autre... Jérôme Niel. Mesdames et messieurs, Audrey Pirot et Jérôme Niel. Alors... Audrey et Jérôme, je vous laisse vous concentrer. La scène est à vous, hein. Vous vous appropriez l'espace scénique. Le premier texte sera joué dans un style de théâtre contemporain. Camille, je te laisse dire le titre du film.
Merci de me laisser dire le titre parce que c'est très poétique. C'est donc un extrait du film et c'est un vrai film. Elle offre sa chatte au plombier en pourboire.
Vous voulez que je fasse les trois coups ? Audrey, oui. Jérôme, oui. Ils sont très concentrés, hein. Ils sont très concentrés. Je fais les trois coups et la Commedia dell'arte peut exploser sur nos visages.
Oh non! Mon lavabo est bouché. Fort heureusement, un plombier doit passer.
Bonjour, madame.
Ah, enfin!
Allez-y, montrez-moi ce qui se passe.
J'ai un souci, là, de lavabo.
Okay.
Il est bouché.
Ok, je vais voir ce que je peux faire. Donc le tuyau descend par ici. C'est un tuyau d'un très gros diamètre. Il est bien calibré. Oh! Moi, je vois que là, c'est bouché. Il a déjà été bien rempli par le passé.
Ha! 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 Merci. Vous avez l'air d'avoir de beaux outils dans votre besace. Vous avez une clé de 12, ou plutôt de 26.
Eh bien, tu vas le savoir tout de suite, salope.
Oh.
Ah.
Oh, oh.
Ah.
Oh, ah.
Ah, petite cochonne.
Oh.
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 Ah.
Coquin.
Oui, je suis ton coquin.
Oh.
Ah.
Ah, ah.
Il joue bien, hein.
Oh, merci.
Hein?
Vous avez comblé mon dégât des eaux.
J'en appelle au public du Théâtre de l'Œuvre. Est-ce que vous voulez une deuxième scène?
Ah,
on va
heure.
Changer de répertoire. Vous êtes ok, Jérôme et Audrey? Vous n'étiez pas
ouais,
du tout
ouais.
prévenu de...
Non,
pas du tout. Et puis il y a d'autres
surprise.
Mots sur la feuille, c'est dingue. Bon, on va prendre la suite. Hein.
On va changer de répertoire. Vous allez désormais interpréter un porno gay qui s'intitule XXX Baise 100% Viril, volume 17, Parle-moi sale, papa. Alors, Audrey, ce sont des vrais films et des vrais textes. Hein. Audrey, tu as choisi de jouer donc Stéphane ou Kevin ?
Stéphane.
Stéphane.
Ok, très bien. Donc, vous allez interpréter ça dans un style, un répertoire de la tragédie grecque. D'accord.
Ok.
Très bien. Jérôme, Audrey, c'est quand vous le sentez.
J'ai choisi Kevin.
Tu D'accord. fais Kevin, du coup ? Ok.
Ok.
Par élimination.
Ah, ça, c'est des vrais comédiens. Ouais.
Ok.
Ce trou est fait pour ma bite.
Oh, oh mec, oh oui, rentre dans mon trou.
Prends ma putain de bite, Kevin.
Oui, oui monsieur. Continue.
Ma grosse bite, épaisse. Dans ce petit trou, serré.
Oui. Baise mon trou, mec, défonce-le. Oh oui. Joue avec mes tétons. Oh. Comme ça. Si tu joues avec mes tétons, tu peux me baiser pendant des heures.
Je pourrais te baiser pendant des heures, Kevin.
Oh, ma chatte de mec toute mouillée. Avec ton jus. Ta grosse bite de 20 cm. Oui, vas-y, plus haut. Plus haut.
Wow.
Dans le trou. Vas-y, baisse plus fort. Enfonce-le. Tu es mon étalon.
Donne à papa ce dont il a besoin.
Oh. Ah. Ah. Oh.
Toi, tu as la bonne bite. Mais moi, j'ai le bon trou.
D'accord, Stéphane. D'accord.
Waouh. Un triomphe. Une standing ovation. Mesdames et messieurs, une femme fontaine d'applaudissements pour Audrey Pirot et Jérôme Niel. Vive le théâtre.
Wow.
Eh bien, c'est la fin de ce podcast, que dis-je, de cet événement majeur pour notre société.
On remercie notre club du cul d'exception, Queen Camille, Benjamin Nevers, June Pla, Camille Aumont-Carnel, Sophie-Marie Larouille et Lorraine Bastide.
Merci. Merci également à Maxime Donzel qui était... alors, j'ai pas compris, Maxime Donzel, s'il était en direct ou enregistré, j'ai pas compris. C'était enregistrement, j'ai toujours pas compris. Merci au Théâtre de l'Œuvre de nous avoir permis de salir leur siège. Merci à Manu Payet pour son répondeur. Merci donc à Audrey Pirot et Jérôme Niel. Et je voulais remercier toute l'équipe de Cracra, car oui, derrière ces casques et ces micros, au bout de ces fils, il y a des êtres humains et humaines. Vanessa Bria, ma partner in crime pie, Jocelyn Bordard, Red Chef et réalisateur, Antoine Carachi au mix, et Story Circus à la post-prod, James à la déco et James à la régie, et c'est pas les mêmes. Chériane et Zoé à la prod, ainsi que Liès Boutchiche, Mathieu Boudet et toutes les équipes de Canal Plus qui nous accompagne, et un gros bisou spécial à Charlotte Meunier.
Merci à vous qui nous avez écoutés et qui êtes venus ce soir. C'était le dernier épisode de Crac Crac en podcast de la saison. N'hésitez pas à partager cette émission et à mettre des petites étoiles.
On se dit tous à très vite. Salut à toutes
et à tous.